écoutez RFI, il est 9h30, à Paris 7h30 en temps universel. Toute l'actualité africaine avec Simon Bourtembourg.
Il fait la fierté de tout un peuple, Achraf Hakimi en meneur d'hommes hier avec le PSG en finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens sont donc champions d'Europe. C'est l'international marocain qui a inscrit le premier des 5 buts de la soirée face à l'Inter Milan. Reportage à Casablanca dès le début de cette édition. Les Probia en meeting dans le sud-ouest du Cameroun à Bouéa. L'opposant Maurice Kamto réunissait lui la diaspora camerounaise à Paris. À 6 mois du scrutin présidentiel dans la capitale française, Maurice Kamto a présenté son programme. Le rassemblement des forces du changement, voilà la nouvelle bannière de l'opposition qui s'unit au Congo-Brazzaville. Les détails à suivre avec notre correspondant sur place. Et puis le Gabon entend mettre en place une industrie de transformation nationale du manganèse. Avec près de 8 millions de tonnes produites l'année dernière, le pays est le deuxième producteur mondial du minerai. L'ambiance était toute particulière hier soir à Casablanca après le titre européen du PSG. Le Paris Saint-Germain a donc gagné la Ligue des Champions et c'est le défenseur Achraf Hakimi qui a mis les Parisiens sur les bons rails en inscrivant le premier but de la soirée. Face à l'Inter Milan, le club de la capitale s'est finalement imposé sur le score lourd de 5-0. L'apothéose d'une saison majuscule pour l'international marocain et une fierté immense pour les fans de foot à Casablanca. Casablanca, à parole de supporter au micro RFI de François Humfer Kataji.
Dima Mghrib, Dima PSG.
Vive le Maroc, vive le PSG, c'est un peu le résumé de la soirée à Casablanca. À la 12e minute du match, le nom d'Hakimi résonne dans ce café de la capitale économique. Jihad salue la performance de l'enfant du pays.
Puisque c'est un Marocain, bien sûr, on est fiers de lui, on est fiers de ce but. On aimerait bien qu'il gagne, qu'il remporte la Champions League.
La suite, on la connaît, large victoire de Paris et Hakimi, le Marocain né en Espagne, qui célèbre la victoire en se drapant des couleurs du Maroc.
Et Hakimi, ça reste une personne spéciale, ça reste quelqu'un qui a choisi le Maroc déjà, et ça fait plaisir, et on le respecte, on l'adore et on l'aime.
Au coup de sifflet final, les clients, pourtant pas tous supporters du PSG, laissent exploser leur joie. Pour Mehdi, Hakimi est une vitrine pour le Maroc à travers le monde.
Il a bien joué, surtout le long du match. Ça a été exceptionnel, cette finale.
Achraf Hakimi avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais sans jouer. Cette fois, il est l'un des artisans de la victoire du PSG.
Il a marqué même un but. Donc, pour un défenseur, pour qu'il marque un but en finale de Champions League, comme c'est un exploit.
Porté par un Hakimi victorieux, le Maroc espère désormais rafler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à domicile. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
Des scènes de liesse observées dans toutes les grandes villes du continent sur notre application RFI Pure Radio. Nous vous proposons notamment un reportage aux côtés des supporters du PSG à Kinshasa. À la RDC, où un ancien Premier ministre est toujours introuvable depuis sa condamnation le 20 mai dernier, Matata Ponyo n'a plus donné signe de vie. Condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics lorsqu'il était au pouvoir, l'opposant est donc porté disparu. Le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, dont Matata Ponyo est le président, fait savoir son inquiétude. Au Cameroun, malgré l'incertitude autour de la candidature de Paul Biya à la présidentielle d'octobre prochain, les leaders du RDPC dans la région du Sud-Ouest réaffirment leur soutien au chef d'État. À moins de 5 mois du scrutin, les cadres locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais étaient donc réunis hier à Bouéa, l'occasion pour eux de lancer une levée de fonds pour la campagne de Paul Biya. Dans le même temps, à Paris, cette fois, des milliers de Camerounais se sont rassemblés en soutien à la candidature de Maurice Kamto. Amélie Tullet, l'opposant camerounais, demande le soutien de la diaspora.
Cameroun 2025, changement.
À cette diaspora camerounaise, Maurice Kamto promet de rouvrir les portes du pays.
Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux.
Il promet aussi de rétablir la binationalité, voire la plurinationalité, pour faire de la diaspora un levier de développement pour un Cameroun qu'il estime en état d'urgence.
Ce pays a besoin d'être sauvé, parce qu'il faut de l'eau potable.
2025 ne sera pas 2018. 4 décennies de présidence Biya arrivent à terme. Maurice Kamto en est convaincu, mais il s'engage à traiter l'actuel chef de l'État avec respect.
Rien n'arrivera à M. Biya et sa famille.
L'opposant balaie tout débat sur sa candidature, lui l'avocat de formation, ancien ministre de la Justice.
Il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle.
Dans la foule, des Camerounais installés en France, d'autres venus pour l'occasion de Belgique, du Luxembourg ou encore d'Allemagne.
Parce que lui, il est celui-là qui va nous permettre d'ouvrir les routes pour rentrer au Cameroun.
On en a marre de 43 ans de manipulation, de marginalisation, donc il faut bien que ça change.
Parce qu'on veut que le Cameroun ait la même place qu'il a eue au niveau du Conseil des Nations. On était des pays émergents, mais aujourd'hui, on a une chute libre.
À cette diaspora, Maurice Kamto demande un soutien financier, de voter pour lui, voire même d'aller au Cameroun en octobre surveiller le scrutin.
L'opposition centrafricaine n'a, elle, pas pu se réunir hier. Tout était pourtant prêt. Le rassemblement du Bloc républicain pour la défense de la Constitution devait se tenir sur le terrain de Lucatex, dans le 8e arrondissement de la capitale Bangui. Mais rien ne s'est donc passé comme prévu. Les militants disent avoir été agressés, et ce par un groupe de jeunes qui souhaitaient organiser un match de football sur le terrain où devait pourtant avoir lieu le meeting. Le BR DC assure y voir la main du pouvoir en place en Centrafrique. Avec 2026 en ligne de mire, l'opposition se rassemble dans une nouvelle alliance au Congo-Brazzaville. Il s'agit là d'arriver unis pour la prochaine élection de présidentielle, donc dans un an. Au moins 8 formations de l'opposition politique congolaise annoncent qu'elles marcheront désormais du même pas, et ce sous l'étiquette du Rassemblement des Forces du Changement. Tour d'horizon des partis concernés avec Loïcia Martial.
À genoux, devant un parterre de journalistes et ses propres collègues, Clément Mirassa, un des dirigeants de cette alliance, a demandé pardon au peuple congolais. Car les critiques vis-à-vis des opposants sont vives. Certains leur reprochent d'être opposants le jour et collaborateurs du pouvoir la nuit. Clément Mirassa a ensuite promis un changement.
Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Nous n'allons pas reculer devant cette machine et nous allons œuvrer pour que en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays.
De son côté, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, un autre dirigeant du Rassemblement des Forces du Changement, a affiché beaucoup d'espoir.
On se rassemble pour faire en sorte que les choses changent dans ce pays. Et on se rassemble parce qu'il faut bouger les lignes. On se rassemble parce que en face, en fait, il n'y a rien. Mais c'est parce que nous n'existions pas. Maintenant, nous voulons nous rassembler pour vraiment changer les choses. Et je pense qu'on va y arriver.
Le RFC n'a pas encore désigné ses organes dirigeants, ni sa stratégie pour l'élection présidentielle que le Congo doit organiser l'an prochain. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
En bref, ce tragique accident de car au Nigeria, 21 personnes sont mortes sur la route hier soir. Aucun autre véhicule n'est en cause et la sécurité routière avance que le drame pourrait être survenu en raison de la fatigue et de la vitesse excessive du car. Dans un long trajet de nuit, les victimes revenaient du 22e Festival National des Sports.
RFI.
L'inquiétude des agriculteurs malgaches. L'entreprise israélienne LR Group est dépêchée pour travailler à la transformation agricole de l'île. Il est question là d'un investissement de 80 millions de dollars dans les cultures du riz, de maïs et de soja, et ce à travers 4 des 23 régions du pays. De premiers accords de principe ont déjà été signés avec le gouvernement. Les autorités malgaches qui assurent qu'il s'agit d'aider les paysans à moderniser leurs pratiques alors que le pays tente d'atteindre la souveraineté alimentaire. Un discours lancinant à Madagascar et qui provoque des inquiétudes. Pauline Le Troquier.
L'annonce a réveillé de douloureux souvenirs et avec eux une hantise, voire des terres malgaches cédées aux étrangers. En 2008, la presse internationale révèle un accord conclu entre l'État et la société sud-coréenne Daewoo pour l'agriculture. Marc Ravalmanan, président de l'époque, est alors accusé de vouloir vendre le pays aux étrangers. La contestation du projet est menée par l'actuel chef de l'État, Andjradzoel, alors opposé opposant et participera à la chute de Mark Ravalmanan quelques mois plus tard. Ce projet israélien agite aujourd'hui les mêmes craintes qu'il y a 15 ans, comme l'explique Serge Zafmaouv, analyste politique.
L'opinion publique s'interroge quand même sur cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ce double discours ? Ils ne comprennent pas que ces gens qui ont été contre le projet d'AEO sont pour aujourd'hui le projet israélien. Le seul capital qui reste à la population, c'est la terre. Donc l'accès à la terre est vraiment un sujet très délicat ici.
La secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire n'a, à ce stade, pas répondu aux sollicitations de RFI sur la nature du futur contrat. Il ne s'agit que d'un mémorandum d'entente qui n'a aucune valeur juridique, justifie Taïnav Razanamaev, et d'ajouter « Je tiens à rassurer la population, les terres resteront malgaches ». Au-delà de l'enjeu foncier, l'annonce indigne une partie de l'opinion publique à l'heure où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'offensive israélienne à Gaza. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Une terre rare dont le gouvernement gabonais veut tirer le maximum de bénéfices. Brice Clotaire-Olingin-Nguema a annoncé la future interdiction d'exporter du manganèse. Il s'agit, Yves-Laurent Goma, de mettre en place dès 2029 une industrie de transformation nationale du minerai.
Selon un spécialiste du dossier, le Gabon aurait dû prendre cette décision depuis plusieurs décennies. Mieux vaut tard que jamais, avance de son côté un retraité du ministère des Mines. Trois sociétés exploitent le manganèse au Gabon. Comilog, filiale du groupe français Eramet, est la plus ancienne et la plus importante. Aucune d'elles n'a réagi publiquement. Un expert du secteur estime que la décision du Gabon est difficile pour ces entreprises, mais que le délai transitoire de 3 ans accordé aux opérateurs est réaliste. Il est possible de monter une usine en 3 ans, selon cet expert qui affirme que les opérateurs pourront produire depuis le Gabon du manganèse métal, de l'aggloméré ou du silico-manganèse, trois dérivés très demandés dans l'industrie sidérurgique. Dans le passé, les opérateurs ont pointé le manque d'infrastructures énergétiques au Gabon comme un frein à l'industrialisation du secteur minier. Un projet de barrage hydroélectrique de 600 MW et de centrales à gaz sont en cours d'étude, a rappelé une source proche du ministère des Mines. Yves Langoma, Libreville, RFI.
Libreville, où il est maintenant 8h42.